Silcast présente l'analyse longue, thème du jour Industrie Tech, avec Alex et Sacha. Bonne écoute.
Aujourd'hui, on prend le temps, trois articles et un fil rouge qui se dessine sans qu'on l'ait cherché. Works in Progress publie une longue histoire de comment ASML, boîte néerlandaise jadis obscure, est devenue le goulot d'étranglement absolu de toute l'industrie des semi-conducteurs. Pendant ce temps, Consomac rapporte que Foxconn, l'assembleur d'Apple, s'est fait siphonner 8 téraoctets de données par un groupe baptisé Nitrogen. Et MIT Technology Review revient sur le Tesla Semi qui, après 8 ans de retard, commence enfin à sortir en volume. Trois articles, trois maillons d'une même chaîne industrielle mondialisée et trois manières dont elle est fragile.
La thèse que je vois se dessiner, et c'est ce qui m'intéresse, c'est la concentration. À chaque étage de cette chaîne, on a un acteur unique, ou presque, qui détient une rente. ASML pour les machines, Foxconn pour l'assemblage, Tesla qui cherche à reproduire ça dans le camion électrique. C'est la structure même du capitalisme tech contemporain qu'on regarde.
Commençons par ASML alors, parce que l'article de Neil Acker est vraiment dense. Le point central, c'est que pour graver des transistors de quelques nanomètres sur une plaque de silicium, il faut de la lumière à très petite longueur d'onde. Et la seule entreprise au monde capable de fabriquer les machines qui produisent cette lumière dans l'ultraviolet extrême, c'est ASML. Une machine fait la taille d'un bus à étage, il faut 40 conteneurs et 3 avions cargo pour l'expédier, et il y a plus de 100 000 composants à calibrer parfaitement.
Et ce qui est fascinant dans le récit de Works in Progress, c'est que ce monopole n'a rien de naturel. ASML était à la traîne dans les années 80 et 90. Ce qui a basculé, c'est trois choses que l'auteur souligne et qu'on associe rarement à l'industrie européenne. Une collaboration étroite avec l'État américain, la vente de grosses parts du capital à des concurrents étrangers comme Intel et TSMC pour financer la R&D, et un pari massif sur une technologie non prouvée, l'EUV justement. 30 ans de subventions publiques américaines via le consortium Sematech et les labos nationaux qui ont nourri cette techno.
Ce qui me frappe, c'est le contraste avec le discours dominant sur l'innovation européenne. On nous répète que l'Europe est incapable de créer des champions tech, et là on a un cas où ça a marché, mais via une recette qui contredit absolument l'idéologie du marché libre. Capital étranger massif, État américain dans la boucle, partenariat public. C'est presque un cas d'école pour ta lecture, Sacha.
C'est un cas d'école, surtout pour comprendre la nature de la guerre commerciale actuelle avec la Chine. Quand les États-Unis ont interdit à ASML d'exporter ses machines EUV vers la Chine, ce n'est pas une décision américaine sur une entreprise européenne. C'est l'aboutissement logique d'un investissement américain de 40 ans dans cette technologie. La souveraineté technologique européenne, mot que les politiques aiment ressortir, c'est un mythe dans ce dossier. ASML Artenic Drawer Aniscalable Duff Dub.
Et il y a un point que l'article développe et qui mérite qu'on s'y arrête. Une fois qu'un goulot d'étranglement aussi étroit existe, il devient quasi impossible à dupliquer. La Chine investit des centaines de milliards pour rattraper et ne rattrape pas, parce que ce n'est pas juste de la propriété intellectuelle. C'est trois décennies de savoir-faire tacite répartis chez des centaines de sous-traitants.
Ce qui nous amène naturellement au deuxième article, parce que Foxconn, c'est l'autre extrémité de la même chaîne. ASML fabrique les machines qui font les puces, Foxconn assemble les produits qui contiennent les puces. Et là, Consomac nous dit qu'un groupe nommé Nitrogen a exfiltré 8 teraoctets, plus de 11 millions de fichiers, incluant des plans confidentiels d'Apple, Intel, Google, Dell, Nvidia, plusieurs usines nord-américaines visées.
Ce qui est intéressant dans l'analyse de Consomac, c'est qu'ils disent que le vrai risque n'est pas tellement que des schémas industriels se retrouvent en ligne, ça arrive déjà régulièrement. Le vrai risque, c'est la revente discrète à des concurrents, ou pire, l'identification de failles de sécurité dans les produits non encore sortis.
Et il y a une dimension politique évidente. Foxconn concentre l'assemblage de la quasi-totalité de l'électronique grand public mondiale. Quand un sous-traitant unique tient ce volume, une attaque sur lui devient une attaque sur tout l'écosystème en même temps. C'est exactement la fragilité dont on parlait pour ASML, mais à l'autre bout.
Et pour le coup, je trouve qu'on est face à une contradiction interne assez classique du capitalisme tech. Les entreprises ont sous-traité à Foxconn pour réduire les coûts, pour externaliser le risque social, pour ne pas avoir à gérer les usines. Mais ce faisant, elles ont créé un point unique de défaillance pour leurs secrets industriels. Apple peut chiffrer ses serveurs autant qu'elle veut. Si Foxconn a les plans non chiffrés sur ses systèmes, Le maillon faible est là.
Et notons que c'est précisément ce que les pirates cherchent. Pas Apple, mais Foxconn. Parce qu'ils savent que c'est là que les défenses sont moindres et la concentration d'informations énorme. La logique de la sous-traitance produit mécaniquement ce type de cible.
Bon. Et le troisième article, le Tesla Semi. MIT Technology Review fait le point. 8 ans après l'annonce en grande pompe par Musk en 2017, avec les vitres résistantes à une explosion thermonucléaire et tout le folklore, le camion sort enfin de la ligne de production en volume. Et Watt EV vient de commander 370 unités pour plus de 100 millions de dollars.
L'angle de l'article qui me semble important, c'est la donnée sur la pollution. Les camions et bus représentent 8% des véhicules sur la route, mais 35% des émissions de CO2 du transport routier. Donc électrifier ce segment a un effet de levier énorme. C'est mathématiquement plus utile que d'électrifier les voitures particulières.
Et pourtant, c'est le segment où Tesla arrive avec 8 ans de retard sur sa promesse. L'article note aussi que Tesla a perdu sa position dominante sur le marché global du véhicule électrique, supplanté par BYD et d'autres constructeurs chinois. Donc le semi arrive à un moment où Musk a besoin de quelque chose qui relégitime industriellement Tesla.
Et là, je serai un peu plus critique que l'article. Watt EV, qui commande 370 camions, c'est une entreprise dont le modèle est de fournir le camion comme service, infrastructure de recharge incluse. Autrement dit, on déplace le problème. Les transporteurs ne veulent pas s'engager directement sur l'électrique, donc un intermédiaire prend le risque. Ce n'est pas le signe d'une adoption massive. C'est le signe que le marché a besoin d'un tampon financier pour absorber l'incertitude.
C'est juste. Mais en même temps, les mégawatts chargés à Oakland, Fresno, Stockton, Sacramento, ce sont de vraies infrastructures qui se construisent. Et une fois que ce réseau existe sur les corridors logistiques californiens, il devient difficile à défaire. C'est peut-être plus solide qu'un effet d'annonce.
Solide pour la Californie, oui. Mais regarde le pattern qu'on a vu sur les deux premiers articles. À chaque fois qu'une infrastructure critique se construit, elle se construit autour d'un acteur dominant unique. Tesla cherche à occuper cette place sur le camion électrique américain comme ASML l'occupe sur les machines de lithographie. Et le risque, c'est le même, dépendance structurelle à un acteur qui peut ensuite dicter ses conditions.
Pour faire la synthèse, ce qu'on retient des trois articles, c'est que l'industrie tech contemporaine est structurée par des goulots d'étranglement choisis. Choisis par les marchés, par les États, par les stratégies d'entreprise. ASML pour la gravure, Foxconn pour l'assemblage, demain peut-être Tesla pour le transport électrique de marchandises. Chaque goulot est efficace économiquement et chaque goulot est une vulnérabilité géopolitique, cyber ou stratégique.
Et là où je veux pousser un peu plus loin, ces concentrations ne sont pas des accidents. Elles sont produites par la dynamique même du capital, qui cherche les rentes, et par les États, qui ont besoin de points de contrôle identifiables pour exercer leur puissance. Les sanctions sur la Chine via ASML ne seraient pas possibles si la techno EUV était diffuse. La concentration sert le pouvoir politique autant que le profit privé.
Et donc, la fragilité qu'on observe, la cyberattaque sur Foxconn, les retards de Tesla, les tensions autour d'ASML, ce n'est pas un dysfonctionnement du système. C'est sa structure même qui produit ces points de rupture. On ne va pas vers plus de résilience, on va vers plus de concentration et donc plus d'enjeux à chaque crise.
Sur ce point, on est d'accord. Et c'est peut-être le mot de la fin. La prochaine décennie de l'industrie tech ne sera pas dictée par l'innovation, mais par la gestion politique de ces goulots. Qui en a le contrôle? Qui peut les attaquer? Qui peut s'en passer?
De quoi nourrir pas mal d'épisodes à venir.